La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Pour la quatrième semaine consécutive, nous échangeons avec Malik Khalab, qui est spécialiste de l'intelligence artificielle, sur ce sujet extrêmement important et un peu préoccupant dans la société actuelle. Nous avons parlé du fonctionnement de l'IA. Nous avons vu que l'IA dépasse nos attentes. En fait, elle nous dépasse. Elle est capable de gagner des concours ou d'être médaille d'or aux Olympiades de mathématiques, par exemple, ce qui n'était pas prévu au départ. Nous avons aussi parlé du fait qu'il y a des dysfonctionnements, des erreurs dans les IA. C'est normal, il y a des erreurs partout, mais ça peut être grave. Et puis l'IA est capable, pas volontairement, parce que l'IA n'a pas de volonté, c'est la manière dont elle a été programmée, mais elle est capable de dire des mensonges ou de tricher. Et donc, à partir de là, les chercheurs essayent de corriger ces défauts, de corriger les dysfonctionnements, de corriger les mensonges, de voir comment on peut arranger tout cela. Et c'est ce qu'on appelle l'alignement. Donc on a un peu parlé la semaine dernière de l'alignement par rapport au dysfonctionnement ou à la vulnérabilité de l'intelligence artificielle et aussi de l'alignement par rapport à l'éthique. Cette semaine, on va aller plus loin. Que pouvons-nous faire? Que peuvent faire les chercheurs et les ingénieurs à ce sujet? J'ai compris, Malik, que l'alignement pour ce qui concerne le dysfonctionnement, la vulnérabilité est quelque chose de connu, qu'on pense dominer. En revanche, l'alignement éthique, pas du tout, ou très peu. Est-ce que tu peux nous développer, nous expliquer tout ça?
Oui, tout à fait, tout à fait. L'alignement, c'est le fait de garantir un fonctionnement qui est conforme à nos objectifs et nos valeurs. Et là, on a un certain nombre de méthodes. Je vais les évoquer. C'est en particulier s'assurer que quand la machine apprend, elle apprend les bonnes choses. Et comme on ne sait pas vérifier son énorme corpus de données, on va procéder à une phase d'apprentissage sur la base de retours humains. Ces retours humains lui permettent d'apprécier quelles sont les catégories des bonnes réponses et des mauvaises réponses pour être moins sujet à des vulnérabilités ou à des fautes. On recrute des personnes qui vont dire « cette réponse est préférable à telle autre ». Donc c'est l'apprentissage renforcé sur la base de retours humains. Et sauf que personne n'est capable de spécifier quelle est la bonne fonction de renforcement donne à la machine les incitations pour aller dans le bon sens, mais elle va elle-même apprendre cette fonction sur la base de ses retours humains.
Renforcement des valeurs correctes par rapport à ce
Absolument.
Qui est incorrect.
Par rapport à ce qui est incorrect. Voilà. Par rapport aussi bien aux erreurs qu'au fait d'être sujet à des malveillances pour que la machine soit exploitée pour dire des choses qui ne sont pas bonnes ou qu'on ne veut pas qu'elle dise. Il existe aussi des techniques qui s'appellent le renforcement inverse où la machine observe des personnes et dit le comportement de ces personnes est par définition le bon. C'est le comportement optimal. Donc il faut que je m'aligne sur ce comportement. Ces techniques qui jouent sur l'apprentissage sont très puissantes, mais elles ont des limitations et on n'est pas en mesure d'apporter des garanties formelles. Une autre façon d'essayer de pallier à ces problèmes de dysfonctionnement et de vulnérabilité, c'est en spécifiant à la machine un certain nombre de règles. Il ne faut pas mentir, faire usage d'informations dans le cadre de délits d'initié ou ce genre de choses. Les exemples que nous avons vus la dernière fois. Mais ces règles et ces normes ne sont pas prises en général comme contraignantes, sauf si on a des systèmes de vérification derrière. Elles sont prises dans le jeu de distribution de l'ensemble des textes dont on a nourri la machine.
C'est ça, c'est-à-dire que si on dit à la machine qu'il ne faut pas mentir, ça ne la touche pas plus que tout ce qu'on lui a dit de faire.
Ça peut être extrêmement ambigu. Le fait de cacher une partie de la vérité, dire toute la vérité ou dire une contre-vérité, etc., selon la notion de vérité. Lorsque la machine est en fonctionnement, on vérifie ce qu'elle donne comme réponse. Dans un certain nombre de cas, on peut mettre en œuvre un système de vérification automatique. Par exemple, quelles sont les sources sur lesquelles elle s'appuie? On peut faire de la vérification. Elle ne peut pas inventer des sources sans vérification. Si on met en place un système de vérification, ce qui n'est pas toujours fait. Enfin, il y a l'ensemble de méthodes de tests, par exemple des tests en environnement confiné. On va la tester par un petit,
groupe.
En petit groupe.
Le petit groupe donne des retours.
Le petit groupe donne des retours. On va avoir ce qu'on appelle des méthodes participatives, hein, des groupes de personnes testent avant d'être largement déployés. Et il peut y avoir toute la réglementation, les lois et les règles avant qu'un système soit déployé ou qu'on l'autorise à être utilisé à un endroit. Aujourd'hui, ces réglementations sont relativement limitées. Il n'y a qu'en Europe, à ma connaissance, que c'est le plus avancé. C'est la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle qui fait des avancées intéressantes relativement aux divers niveaux de risque, avec des exigences en termes de mécanismes d'audit et de transparence selon le niveau de risque. Le niveau de risque est acceptable ou le déploiement est complètement interdit.
Il y a bien quand même des études sur ce sujet, je ne sais pas moi, en Asie, enfin dans d'autres régions du monde. Vraiment l'Europe qui est en avance ?
À ma connaissance, oui, c'est l'Europe qui est plus en avance. Il y a une réglementation qui a été publiée en Californie, mais elle a été largement contournée dans le sens davantage de favoriser la Silicon Valley que dans le sens de la freiner, parce que le poids des lobbies de la Silicon Valley est très très fort. Donc tout ça, c'est un arsenal de techniques qui s'inspire des techniques classiques de sécurité, de sûreté et de sécurité pour pallier tous les risques de dysfonctionnement et de malveillance. Et on avance, je pense qu'on en avance, mais on n'avance pas aussi vite que le progrès de la technique d'une manière générale. Et il y a un retard entre les possibilités de contrôle et les progrès de la technique.
Ce qui veut dire que la technique évolue et que l'intelligence artificielle elle-même évolue plus vite que ce que les êtres humains peuvent faire pour la contrôler.
Absolument. Les techniques de contrôle n'évoluent pas en parallèle et à la même vitesse. Et aujourd'hui, on n'est pas en mesure de garantir un comportement complètement aligné uniquement par rapport aux questions de sûreté et de sécurité. Voilà un petit peu où nous en sommes.
C'est un peu inquiétant quand même, non ?
Oui, c'est tout à fait inquiétant. C'est tout à fait inquiétant. Les dynamiques sociales sont très très lentes pour comprendre les possibilités de l'IA par rapport aux dynamiques qui, elles, sont très rapides. Et il faut avoir en tête que c'est une part essentielle, la programmation de ces machines est faite par l'IA elle-même. Donc il y a réellement un bras de levier qui se renforce et qui se renforce et qui se renforce, qui fait qu'il y a une rétroaction amplificatrice où les effets se rajoutent aux causes qui font que les capacités augmentent. Il faut retenir que relativement aux problèmes de dysfonctionnement et de vulnérabilité, on n'est pas complètement démuni pour pallier à tous ces problèmes de sûreté et de sécurité.
Maintenant, ça, c'est plutôt encourageant. C'est plutôt encourageant, mais le niveau éthique, c'est plus difficile.
Alors, le niveau éthique est extrêmement ouvert aujourd'hui. On connaît la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de la Révolution française, on connaît la Déclaration de la Première Guerre mondiale, les déclarations européennes. On dispose d'un certain nombre de textes encore plus anciens. Mais lorsqu'on rentre dans les détails, il y a toujours la question de quelle valeur on retient, parce qu'elle va être variable d'un endroit à l'autre, comment le représenter dans une machine et comment faire en sorte qu'une machine leur obéisse.
Les valeurs éthiques et morales ne sont pas les mêmes non plus dans tous les pays du monde. Sauf, comme tu disais, il y a un dénominateur commun. C'est pas simple tout ça.
On essaye néanmoins par rapport à ces dénominateurs communs. Par exemple, une expérience qui a été faite, l'expérience Delphi, où on a réuni un certain nombre de considérations de bon sens liées aux règles éthiques, ce nombre étant près de 2 millions, fournis par un grand nombre de personnes, et on les a données à la machine conjointement avec tout ce qui a nourri son apprentissage. Et puis on lui a posé la question et on s'est rendu compte que certaines de ses réponses étaient absolument inacceptables. Est-ce que
inacceptable du point de vue éthique. T'as un exemple en tête ?
Oui. Est-ce que j'ai le droit de commettre un génocide si ça me fait très plaisir ? La réponse est oui. La réponse est oui, si ça te fait très plaisir, oui. Donc cette expérience d'Elphi souligne qu'un pourcentage important des questions sont conformes aux règles, mais que quand même, il y a une fraction qui est absolument inacceptable. Voilà où on en est aujourd'hui. A priori, c'est lié au fait que ces éléments qu'on a donnés dans cette expérience ou dans d'autres ne sont pas considérés comme normatifs et inscrits comme les tables de la loi dans le marbre. Il est hors de question de les transgresser. Même si on savait le faire, il faut avoir les moyens de lui dire comment résoudre des éléments conflictuels. Parce que l'éthique est constamment associée à des choix conflictuels qui sont liés à un contexte particulier dans lequel on s'implique, nous, humains, quand on prend une décision ici. Sur la base, à la fois de nos principes, il y a un énorme gap entre nos principes et nos actions. Et quand on prend l'action qui met en œuvre ces principes éthiques, il y a là encore un contexte particulier de la mise en œuvre qui s'appuie sur nos émotions, qui s'appuie sur notre appréhension de ce contexte sur une base physique et émotionnelle. Il y a une base biologique de l'éthique qui est associée à nos émotions.
La machine n'a pas d'émotion. Là, c'est important, il faut le dire.
La machine n'a pas de motivation propre. La machine n'a pas de finalité en tant que telle. Nous l'utilisons en lui fournissant énormément de choses sur nous, sur notre société, etc. Et nous nous efforçons, à travers une partie seulement de ces problèmes d'alignement, de faire en sorte que cette utilisation soit principalement bénéfique pour nous, mais avec des risques considérables. Et encore une fois, on ne sait pas répondre à tous ces risques, on sait répondre à une partie d'entre eux.
Est-ce que ça veut dire que l'intelligence, d'une manière générale, peut être calculable, mais que les émotions ne le sont pas ?
Il y a d'abord un principe philosophique classique qui est de dissocier entre intelligence et morale. Mmh. C'est deux notions complètement orthogonales. Ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent qu'on est plus moral. L'élément important, c'est que un certain nombre de travaux met en avant l'importance clé des émotions dans la prise de décision rationnelle. Nous évaluons le contexte sur la base de nos émotions avant de l'intégrer de façon cognitive sur une base rationnelle. Et ça, c'est un point clé qui intervient dans la prise de décision éthique, dans la pondération des choix éthiques que la machine ne fait pas et n'est pas en mesure de faire. Pour beaucoup de philosophes, le fait de dire « on va programmer la machine pour qu'elle soit éthique » n'a pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens. Il faut constamment veiller à faire qu'il y ait une supervision humaine sur ces machines avant de les lâcher dans la nature et de leur donner la possibilité d'agir.
Merci beaucoup Malik pour ces 4 émissions très riches. Je pense que les gens vont être bien intéressés et apprendre beaucoup de choses au sujet de l'intelligence artificielle. J'ai envie de te demander, est-ce que tu peux donner une sorte de conseil aux gens qui utilisent l'intelligence artificielle ? Je pense que l'auditeur qui est là se dit, mais moi qu'est-ce que je vais faire avec tout ça maintenant ?
L'élément clé, c'est d'abord de faire l'effort de comprendre ce qu'il y a derrière, au moins à un certain niveau. Et l'autre élément important, c'est de garder un sens critique. Ce sens critique est essentiel. Le fait d'anthropomorphiser la machine et de dire qu'elle répond, elle réagit, elle donne l'impression d'être omnisciente, de tout savoir, tout ça est très dangereux. Et il faut rester très critique et avoir constamment en tête de vérifier.
Eh bien, merci beaucoup Malik et bonne continuation dans toutes ces recherches. À bientôt.
Avec plaisir.
Au revoir Malik.
Merci Sylvie.